Nous reprenons, si vous le voulez bien, et c'est donc le tour de Frédéric Neff. Et je crois que nous allons poursuivre la réflexion avec un titre « Pathos métaphysique et sémantique philosophique ».
Les termes « pathos métaphysique et sémantique philosophique » ou les syntagmes « pathos métaphysique et sémantique philosophique » sont tirés de l'introduction de Lovejoy à son livre « The Great Chain of Being ». Et je les ai extraits parce qu'il me semblait traduire une tension intéressante entre quelque chose qu'il déteste, le pathos métaphysique, et quelque chose qu'il chérit, tout en ne s'y identifiant pas complètement, la sémantique philosophique. Vu la substance essentiellement historique de mon propos, la thèse philosophique que j'exposerai sera défendue à travers un exposé plutôt historique, ce qui me paraît normal. La thèse est la suivante. La méthode de l'histoire des idées ne peut être une méthode purement analytique et statique. Elle ne peut servir, sur la base d'une comparaison, à fonder une explication historique sur des ressemblances stylistiques, conceptuelles ou lexicales. Elle ne peut pas plus fonder des récurrences conceptuelles en histoire de la philosophie en postulant des idées simples qui sont la base d'une récurrence, donc toutes ces impossibilités provenant des mêmes limitations méthodologiques du système de Lovejoy, qui a été pourtant unanimement considéré dans ce domaine comme le plus évolué, le plus clair et le plus explicite. D'accord. De plus, la méthode de Lovejoy, d'un point de vue sémantique, souffre de défauts importants qui réclament un recours soit à une théorie formelle des idées, ce qui a été fait, soit à une adaptation des idées wittgensteiniennes sur l'usage et la signification, ce qui a été fait en particulier par Skinner et d'autres. Même si la critique de Intika n'est pas complètement pertinente et porte d'ailleurs plutôt sur le contenu du livre de Lovejoy que sur sa méthode, elle a contribué à diminuer l'aura de Lovejoy pendant un moment. Soit dit en passant, certains commentateurs autorisés ont jugé que cette critique est en partie erronée. Par exemple, Graham et Martin, The Perils of Plenitude, Intika contra Lovejoy, en 1980. Ce qui rend moins grave le fait que je ne pourrai pas, faute de temps, l'examiner en détail. La critique de Intika a donné lieu indirectement à une description critique du principe de plénitude dans la philosophie modale française, notamment chez Ravaisson et Bergson, par Pascal Engel, description critique qui mentionne Lovejoy et endosse donc en partie ou totalement la critique de Intika. De plus, je n'aborderai pas la discussion des idées de Lovejoy concernant le réalisme, et plus précisément « the new realism », ce qu'on a appelé « the new realism », c'est-à-dire un groupe de 6 philosophes américains des années 1910, dans lequel Lovejoy a joué un rôle important et critique par son livre « The Revolt Against Dualism », qu'on interprète habituellement comme une critique du nouveau réalisme. De fait, l'immense succès de « The Great Chain of Being » a peu ou prou dissimulé l'intérêt pour le reste de son œuvre. Et c'est d'ailleurs un mérite de l'exposé de Patricia d'avoir vraiment été contre cette espèce de dissimulation et d'avoir montré dans sa lecture l'intérêt de beaucoup d'autres textes. Et tout en déplorant ceci, je me conformerai à cet état de choses pour des raisons évidentes. Il ne s'agit pas ici d'une évaluation d'un philosophe, mais de comprendre pourquoi l'histoire des idées a déserté le domaine de la philosophie, alors même que ce ne fut pas le cas pour l'histoire littéraire. Voir, par exemple, le Journal of Literature and the History of Ideas, John Hopkins et the Hebrew University of Jerusalem, qui a été récemment fondé, si je ne me trompe, 2005 ou 2006, je ne sais plus. Donc, vous voyez, Journal of Literature and the History of Ideas, un journal tout prestigieux, récemment fondé. Donc là, on voit bien qu'il y a toujours un intérêt pour ce genre de choses. Enfin, je n'aborderai pas non plus ce qui concerne l'histoire dans l'histoire des idées. Je considère à la suite des réflexions lucides de Preston King comme le point décisif en ce domaine la notion du présent. Dans son texte intéressant, Thinking Past a Problem. Une idée unité, pour être le sujet d'une réitération à différents moments du temps, doit à chacun des moments être présente. Une idée unité, par exemple, de la gradation ontologique, ne peut être passée, présente, puis future. Elle est présente dans le passé, dans le présent et dans le futur. On pourrait parler d'un présentisme métatemporel, dans une certaine mesure. Dans cette optique, le présent n'a pas de limite. Le présent instantané ne contient aucun passé, même si le présent étendu contient un passé. L'histoire des idées n'est en rien, ça va peut-être vous choquer, une histoire du passé. Bien entendu, il y a des idées anciennes et des idées nouvelles. L'idée de tolérance est relativement nouvelle à la fin du XVIIe siècle, mais quand elle naît, elle est présente. Et dire qu'elle est nouvelle, c'est dire qu'elle est présente de manière concurrente avec tel présent instantané, ou plus ou moins étendu si sa naissance est vague. Plusieurs solutions se présentent pour l'évaluation de l'histoire des idées. La première est de rejeter complètement l'histoire des idées, au nom de la déconstruction ou de l'archéologie des contenus de savoir. Il me semble qu'il ne s'agit pas d'une solution, parce que des problèmes réels que l'on va exposer seront alors purement et simplement évacués, ce qui est dommage. La seconde solution, celle de Skinner, dont on parlera, est d'injecter dans l'histoire des idées une théorie de la signification, incluant le syllogisme pratique et l'explication causale. Il existe une troisième solution, dont je ne dirai que quelques mots, car elle est assez technique et par conséquent consommerait beaucoup de temps, d'espace, celle consistant à développer une sémantique, plus ou moins formelle, pour l'histoire des idées. Elle serait fondée, par exemple, sur l'idée de synonymie des idées. Elle a été développée par Niels Kvasstad de l'université d'Oslo. Et ça serait intéressant, évidemment, parce que, par exemple, si nous avons, dans tout le débat qui a existé sur la liberté, un débat où on a une synonymie entre le serf-arbitre et le libre-arbitre, il serait évidemment intéressant d'avoir à notre disposition une théorie de la synonymie, effectivement, des idées, qui soit une théorie extrêmement précise qui nous permette de savoir exactement ce que ça veut dire. Je prendrai le plan suivant. Premièrement, je suis désolé si je me répète par rapport à d'autres. Premièrement, Lovejoy et l'histoire des idées. Deuxièmement, je prendrai deux exemples de critique de l'usage de la méthode de l'histoire des idées. La critique de Spitzer à propos de ce que Lovejoy a dit de la comparaison du romantisme et du nazisme. Je me permettrai également un petit appendice à ce moment-là sur ce que Lovejoy a dit dans sa comparaison entre Giordano Bruno et Spinoza, qui montre que, en fait, à la fois Lovejoy est quelqu'un qui est extrêmement intéressé par l'histoire de la philosophie, que donc il y a un lien entre l'histoire de la philosophie et l'histoire des idées, et que d'autre part il est extrêmement conservateur, en fait, en histoire de la philosophie. Et à ce moment-là, on peut se demander s'il n'est pas extrêmement conservateur aussi en histoire des idées. Et troisièmement, la critique systématique de l'histoire des idées par Skinner, à travers des idées wittgensteiniennes à propos de l'usage et de la signification, qui, comme je l'ai dit dans une question, vont nous amener peut-être du côté de Collingwood. En conclusion, je montrerai que l'aspect critique que nous allons développer est peut-être plus solide et plus développé que les alternatives théoriques à la méthodologie scientifique de Lovejoy qui était fondée sur la chimie analytique. En particulier, plusieurs allusions sont faites par Spitzer, Skinner et d'autres au concept d'émergence qui aurait peut-être dû être développé par Lovejoy. Mais je montrerai que Lovejoy, dans un article, a développé ce concept d'émergence. Et ce qui est frappant, c'est que Lovejoy est tout à fait, en fait, un émergentiste, si on entend par émergentiste quelqu'un qui donne une valeur extrêmement importante au concept d'émergence, mais ce concept d'émergence, il ne l'utilise pas, en fait, dans sa théorie des idées. C'est dans son histoire des idées. Enfin, il utilise le mot, mais il ne va pas utiliser le concept lui-même. C'est très étonnant. Bon. Alors, la méthode de Lovejoy. Je suis désolé si je répète des choses qui ont déjà été dites, mais le charme des colloques, c'est la répétition. La méthode de Lovejoy est très proche de celle de Dittel, de celle de Dilthey, ou Dittel, dans Archiv für Begriffsgeschichte. Et elle se caractérise par son insistance sur l'interdisciplinarité et le fait de postuler un niveau atomique d'idées, les idées unités. Unit Ideas. La thèse fondamentale de Lovejoy est que l'histoire des idées ne doit pas s'occuper directement des systèmes. Le concept de système va être très important dans ce qu'on va faire. Et vous allez voir que vous allez être étonné parce qu'on va remonter pratiquement jusqu'au concept de système dans l'histoire de la philosophie au XVIIIe siècle. Vous allez voir. Comme par exemple la théorie occasionnaliste de la causalité au XVIIIe siècle ou la théorie des spéquies d'Aristote à Saint-Thomas, etc. Alors, mais doit s'occuper d'abord des composants élémentaires. On ne doit pas s'occuper des systèmes, mais des composants élémentaires. Et ces composants élémentaires, pour Lovejoy, sont comparables aux éléments chimiques qui composent les molécules. Par exemple, l'oxygène et l'hydrogène, composants de l'eau. Composants élémentaires que seraient les idées simples, dont la récurrence forme la trame de l'histoire intellectuelle. En ce sens que la chaîne de l'être est une idée simple ou idée unité pouvant prendre, comme on le voit dans son livre, de multiples formes, exactement comme dans le structuralisme des motifs, à ne pas confondre avec des topos à la cursus, peuvent générer des thèmes. Là, je suis prudent parce que je sais que le vocabulaire dans ce domaine est extrêmement, glissant. Selon Lovejoy, l'histoire des idées est plus spécifique est moins restreinte que l'histoire de la philosophie. La méthode de l'histoire des idées est pour Lovejoy analogue à celle de la chimie analytique. Et je vous rappelle que la chimie analytique est la partie de la chimie qui s'occupe de l'analyse des produits, c'est-à-dire l'identification et la caractérisation des substances chimiques connues ou non. Et il est frappant de constater que dans son article sur l'émergence, Lovejoy dit que l'émergence concerne en fait la chimie synthétique. C'est un point qu'il faudrait regarder. Dans la mesure, donc, la chimie analytique, dans la mesure où elle scinde les contenus de manière beaucoup plus fine, si je comprends bien, l'histoire de la philosophie découperait sur le plan moléculaire, et le rôle de l'histoire des idées serait de descendre d'un cran. Le plan moléculaire serait celui des systèmes et des ismes, que presque tous les philosophes de la fin du XIXe siècle ont rejeté, je crois. En gros, les Kantiens ont bien distingué les deux, et les Nietzschéens ont, semble-t-il, autant que je sache, assimilé les deux. Les idées unités sont de multiples variétés, ce qui renforce l'analogie avec la chimie. Alors, type de catégorie, je donne les différentes choses que Lovejoy met dessous, les idées unités. Type de catégorie. Pensée concernant des aspects particuliers de l'expérience commune, des présuppositions implicites ou explicites, des formules sacrées et des mots d'ordre, catchwords, des théorèmes philosophiques spécifiques ou des hypothèses plus larges, des généralisations ou des affirmations méthodologiques relatives aux différentes sciences. C'est dans un texte qui s'appelle The Historiography of Ideas. L'hypothèse méthodologique de Lovejoy est que dans tout système de pensée ou tout conglomérat en isme, des idées unités peuvent être trouvées. Le corps total de doctrine de toute philosophie ou de toute école de philosophie est toujours un agrégat complexe et hétérogène, et la plupart des systèmes philosophiques sont originaux ou distinctifs, plus dans leurs motifs que dans leurs composants. C'est pour ça que, en fait, j'ai parlé tout à l'heure de motifs que je me suis senti plus ou moins autorisé à parler de motifs et que je vais refaire peut-être un peu plus loin une comparaison avec les thèmes, les motifs, et que je ferai un rapprochement en fait avec le structuralisme et que plus tard je ferai un rapprochement peut-être un peu audacieux avec Propp. Ce qui peut sembler un peu violent. Mais enfin, je crois que dans un certain sens c'est possible. Parce que Propp en fait s'inspirait aussi de la chimie. Il s'inspirait de Mendeleïev. Alors, Lovejoy peut aller jusqu'à affirmer que le nombre des idées unités de base est finalement assez limité. Ça, c'est très, très important. La nouveauté apparente d'un système est due seulement à la nouveauté de l'application ou de l'arrangement des anciens éléments qui vont en faire partie. En ce sens, et maintenant je vais vous parler juste un tout petit peu de Propp, en ce sens, Lovejoy s'inscrit parfaitement dans le structuralisme sémantique d'un Propp qui limite drastiquement la liste de ses actants. La distinction des énoncés narratifs est la plus grande et des plus grandes unités évoquant la distinction de Lovejoy entre idée, unité, le système d'idées. Propre ou Lovejoy se réfère plus ou moins explicitement à la chimie, car la notion de fonction narrative chez Propre est dérivée de la notion chimique de fonction, et la limitation des éléments s'inspire sans doute de la théorie de Mendeleïev. En effet, on a pu récemment montrer que les possibilités structurales dans le récit mythologique sont représentées d'une manière analogue au système des plantes de Linné et au système des éléments chimiques de Mendeleïev. Donc on aurait en fait une espèce de comparaison qu'on peut faire entre le système philosophique et puis les idées unités, on descend, et puis on aurait effectivement les récits, et puis en dessous les énoncés narratifs canoniques. Maurice Mandelbaum compare Lovejoy et Cassirer en faisant remarquer que pour ce dernier, des forces internes constituent une alternative aux croyances méthodologiques de Lovejoy. En effet, Cassirer présente ses études sur la Renaissance et les Lumières comme visant à élucider, je cite, « à élucider les forces intérieures formatives ». Une telle présentation des doctrines philosophiques et des systèmes fait tout son possible pour donner, je cite, « une phénoménologie de l'esprit philosophique ». C'est une tentative de montrer comment cet esprit, luttant avec des problèmes purement objectifs, parvient à la clarté et à la profondeur dans sa compréhension de sa propre nature et de la destinée de son propre caractère et de sa mission. Les forces intérieures formatives, je pense, dans un certain sens, sont l'exact opposé des idées unités. Et je pense que là, il y aurait une comparaison très intéressante à faire entre Cassirer et... entre le Cassirer, je dirais, de la philosophie des Lumières, et le Cassirer en général, et Lovejoy. Bon. À côté de cette anatomie des idées, Lovejoy entreprend de repérer dans l'histoire des idées un certain nombre de thèmes récurrents afin de parvenir à une véritable objectivité. Un des thèmes, semble-t-il, les plus riches de développement eu égard à son destin actuel est celui du pathos métaphysique. Cité, hein, c'est pathos métaphysique, c'est une expression de lui. Négativement, toute une partie de la philosophie du XXe siècle, de Russell à Carnap, a condamné avec le maximum de force son équivalence de pathos métaphysique avec la Schwärmerei kantienne. Positivement, une autre phase de la philosophie de cette époque a implicitement revendiqué le pathos en le pratiquant sur une large échelle. Lovejoy relève plusieurs symptômes de ce pathos métaphysique. Des choses que vous connaissez bien. Le omne ignotum pro mirifico. Ce qu'on ne sait pas, on lui donne une importance démesurée. C'est une traduction vraiment pas élégante, mais je crois qu'elle est exacte. Et de manière plus large, le culte de ce qui est ésotérique. Un autre symptôme est le pathos moniste ou panthéiste, ou le pathos panpsychiste, qui est plus à la mode maintenant. Lovejoy donne comme exemple de ce pathos moniste à la fois Fichte, Santayana, qu'il a très bien connu, et James, qu'il a très bien connu. Personnellement, je pense que l'ouvrage de Sprigge sur Bradley et James, avec notamment le chapitre sur le pan-expérientialisme, s'attache bien à décrire le même symptôme et peut-être même à chercher à en diminuer sa dangerosité. Il est intéressant de constater que Lovejoy, dans son tableau des idées philosophiques, dressé du point de vue de sa théorie des idées, dresse implicitement un contraste en ce que nous venons de dire rapidement du pathos métaphysique et ce qui peut être appelé la sémantique philosophique. Il ne faut pas confondre la sémantique philosophique et la sémantique historique, par exemple, de Léo Spitzer. Toutes deux se distinguent de la sémantique linguistique à son origine chez Bréal. Et c'est de sémantique, 1897. Mais la sémantique philosophique a dans l'esprit de Lovejoy pour but de dissiper les ambiguïtés de la langue naturelle, clearing up their ambiguities. Tandis que la sémantique historique a pour but, chez Spitzer, d'établir les fondements stylistiques des différentes langues en décrivant les relations de sens qui existent entre elles pour des unités importantes, comme par exemple le milieu ou les gentils. On peut risquer l'hypothèse que Lovejoy, en récusant à la fois le pathos métaphysique et la sémantique philosophique, cherche en fait une via media qui rejette le holisme et l'atomisme, le romantisme et la science au sens positiviste. Alors maintenant, ça c'était le premier point, c'était pour présentation. Deuxième point de l'exposé, la critique de Lovejoy par Spitzer, à propos donc de deux exemples, la comparaison du romantisme et du nazisme, et Giordano Bruno et Spinoza. Alors on peut donner ici deux exemples de sémantique linguistique pour évaluer le traitement de Lovejoy, l'un pris dans l'actualité de l'émergence de l'idéologie nazie, l'autre dans la comparaison de grands philosophes. Lovejoy, dans un article intitulé « The meaning of romantism for the historian of ideas », que Patricia doit connaître par cœur, et je rougis d'en parler devant elle, s'attache à la description de trois idées, « unit ideas » de la période romantique, importante pour la production de l'esprit totalitaire et donc pour le tragique, je cite, pour le tragique spectacle de l'Europe en 1940. Ces trois idées sont Ganzheit, holisme, organicisme, Streben, volontarisme, dynamisme, et beaucoup plus difficile à traduire, Eigentümlichkeit. Alors, c'est difficile parce qu'en anglais, c'est traduit par diversificationnisme. Alors, traduire en français par diversificationnisme, c'est très curieux. Il faudrait traduire, comme m'a suggéré mon ami Otto, par particularisme, par... difficile, hein ? Eigentümlichkeit. Dans les dictionnaires, il y a même originalité, quelquefois. Bizarrerie, j'ai même vu bizarrerie dans un dictionnaire. Ça peut être dans certains contextes, pas dans ce contexte-là. Particularisme ? Particularité. Comment ? Je ne t'entends pas, excuse-moi.
Idiosyncrasie.
Idiosyncrasie, mais dans un contexte... Eigentümlichkeit. On comprend mieux l'allemand, là. Hein ? Non ? Bon. Comment ? Pardon ? Qu'est-ce qui m'étonne ? Bon, d'accord. Spitzer n'accepte pas qu'un mouvement historique, quel qu'il soit, puisse être expliqué par un outil analytique tel que l'histoire des idées. Il soutient que seule la Geistesgeschichte et non l'histoire des History of Ideas peut expliquer des événements historiques comme l'émergence du nazisme. Il oppose à l'atomisme naturaliste de l'histoire des idées la méthodologie inclusive de l'histoire spirituelle où l'esprit désigne simplement une unité. En opposition à une telle histoire des idées, celle de Lovejoy, avec les biais des méthodes naturalistes et atomistes appliquées à l'histoire de l'esprit humain, je propose une Geistesgeschichte dans laquelle le Geist ne représente rien de suprêmement mystique ou mythologique, mais simplement la totalité des traits d'une certaine période ou mouvement par lequel un historien essaye de voir comme une unité et l'impact par lequel la philosophie des encyclopédistes et des mathématiciens encyclopédistes, au contraire, cherche à augmenter l'agrégat de leurs parties. Spitzer rabat l'histoire analytique des idées de Lovejoy sur la variété atomiste de l'histoire des idées, sans naturellement qu'il revendique un glissement dans un holisme mystérieux qui serait celui d'un esprit recteur et insaisissable. Cette histoire atomiste des idées est dérivée par des modèles français immédiat de la philosophie analytique de l'histoire des encyclopédistes français, notamment Voltaire, dans son dictionnaire philosophique, qui repose de manière évidente sur l'hypothèse selon laquelle, de la même manière que les mots peuvent être rangés sous la forme de listes dans un dictionnaire et détachés du système linguistique en question, ainsi, de la même façon, les idées peuvent être détachées de leur climat, ce que Voltaire nomme les mœurs. Ça, c'est... une hypothèse très subtile et très intéressante. C'est l'idée, effectivement, que les auteurs des Lumières, composent des dictionnaires, mais que ces dictionnaires, si je comprends bien, attachent en même temps les mœurs à la description du sens, en fait, des mots. Et que ce que font ce qui font de l'histoire des idées, c'est détacher les mœurs et garder simplement. C'est ça? C'est assez intéressant. Bon. De cette manière, l'histoire des idées à la Lovejoy rentre aisément dans un schéma explicatif réductionniste. Alors, la réduction, ça serait la réduction qui consisterait à, effectivement, à enlever... comment ? À enlever les mœurs, oui. De cette manière, l'histoire des idées rentre aisément dans un schéma explicatif réductionniste où le tout n'est qu'un agrégat des parties, une chose complexe, se décomposant par analyse ou résolution dans des parties composantes ultimes. Il s'agit donc de connaître les caractéristiques des parties, les lois de leurs actions qui permettent de produire le complexe. Il existe deux schémas formels qui s'efforcent de résoudre une difficulté théorique propre à l'histoire des idées. C'est ce qu'on voit se dégager dans cet article et dans la critique de Spinoza. Cette difficulté est la suivante. Quelle est la relation qui existe entre les relations d'idées ? Le premier schéma formel est celui de l'émergence. Spitzer prend chez Lovejoy l'exemple du tout, das Ganze, et du totalitarisme. Totalitarisme, totalitarisme. Deux questions au moins se posent. Quelles sont les forces historiques qui sont à l'œuvre dans une altération aussi radicale ? Comment passe-t-on d'un niveau à un autre ? Et c'est là où on va arriver à l'émergence. Spitzer remarque que Lovejoy fait usage de l'émergence. Das Ganze, la totalité, a été appliqué à la sphère politique, émergeant de l'opération comme totalitarisme, totalitarianisme, de même bien que dans ce nouvel ordre, l'attitude organique puisse ne pas se maintenir comme dans le tout, qui est l'État, les fonctions individuelles, non organiquement, comme un membre vivant, mais comme une machine. Le tout organique émerge comme un totalitarisme mécanique, d'où, ça évoque ça pour vous, j'imagine, le thème de la motorisation, vous vous rappelez, de la Wehrmacht, de l'infléchissement aérien et souterrain, corrélatif du combat terrestre, chez d'autres auteurs comme Jünger. Et l'on peut parler d'émergence parce qu'il y a des propriétés dans la base d'émergence qui sont irréductibles à des propriétés dans la manifestation. Une totalité mécanique est irréductible à une totalité organique et il n'existe pas de processus continu qui mène de l'un à l'autre. Ce qui est intéressant, c'est de voir le totalitarisme émerger. Une phrase un peu étrange, je reconnais. Bon. Comme ce qui émerge est généralement le plus complexe, à partir de la combinaison de choses de moins en moins simples, cela sous-entend que le totalitarisme politique émerge comme un facteur croissant d'intégration. Et donc, on trouve ici en pointillé le concept d'émergence qui n'est pas développé par Lovejoy et qui est développé de manière indépendante dans un article de 1927, dans un article qui s'appelle The Meaning of Emergence, qui est dans The Journal of Philosophical Studies, et que je ne peux pas vous exposer parce que je n'ai pas le temps de le faire, mais c'est un article où on voit clairement que Lovejoy, d'une part, est proche du groupe des émergentistes britanniques, et que, d'autre part, il appartient aux émergentistes américains avec Whitehead, hein, les deux émergentistes américains qui sont cités habituellement, c'est Whitehead et Lovejoy. Et les émergentistes donc britanniques, c'est Broad, Morgan et le très grand métaphysicien Alexander. Mais disons qu'il n'a pas utilisé le concept d'émergence de manière développée dans The Great Chain of Being, et que là, dans l'hypothèse qu'il développe sur romantisme et hitlérisme, il ne le fait pas. Il ne l'utilise pas non plus. et Spitzer quand il critique Lovejoy et quand il parle d'émergence n'a pas à rentrer là-dedans. Alors, il existe un second schéma d'explication à côté de l'émergence, c'est la correspondance tout simplement entre évidemment les deux niveaux pour le texte de Lovejoy, le romantisme et l'hitlérisme. Et là aussi, je vais être très 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 rapide. Ce que Spitzer reproche à Lovejoy dans l'hypothèse qu'il a sur le rapport qui existe entre le romantisme et l'hitlérisme, c'est essentiellement de ne pas, avoir de rapport vraiment, explicatif. Ce qui fait que, par exemple, ce que Spitzer reproche à Lovejoy, c'est que, étant donné qu'il y a presque un rapport causal entre romantisme et hitlérisme, Spitzer fait remarquer que si on admet cela, il peut presque y avoir une causalité entre romantisme et hitlérisme qui est telle que si quelqu'un adopte des idées romantiques, il peut favoriser le développement de l'hitlérisme. Ce que évidemment, Spitzer n'est pas prêt à accepter. Et donc, à ce moment-là, il rejette en fait le type de relation qui existe entre romantisme et hitlérisme. Alors, combien de temps il me reste ? Ah, je ne sais pas.
Combien ? Il reste 5 minutes.
Alors, donc, je ne vais pas parler de Giordano Bruno et de Spinoza, c'est dommage. Bon, alors. Peut-être que je pourrais juste parler de Skinner, et puis voilà. Oui, donc je saute Giordano Bruno et. Oui, voilà. Alors, Skinner ne critique pas tant certaines hypothèses historiques de Lovejoy. Par exemple, que tel ou tel auteur soit en fait profondément religieux au lieu d'être critique, mais l'inadéquation de sa méthodologie, par laquelle certaines nouvelles interprétations ont été guidées et établies. Lovejoy insiste sur le fait qu'une concentration sur les textes en eux-mêmes est suffisante pour avancer de telles interprétations. Cependant, Skinner doute profondément de cette méthode. Par exemple, dans le cas de Hobbes et de Bell, soit les pensées diverses sur la comète de Bell. C'est un exemple qui est vraiment longuement discuté. Devons-nous prendre au pied de la lettre l'orthodoxie religieuse de la plupart des questions posées par un catholique à un docteur de la Sorbonne au sujet de l'apparition de la comète, alors que l'ironie général nous engage plutôt à ne pas le faire, comme la plupart des contemporains l'ont très bien compris, ainsi d'ailleurs que les autorités ecclésiastiques, qui l'ont, semble-t-il, classé parmi les sceptiques, en partie sur la base de ses va-et-vient confessionnels et de l'ambiguïté de son concept d'athéisme vertueux. Dans la complexité d'une telle intrication, qui n'est pas si rare, la méthode textualiste des idées unitées, d'après Skinner, ne peut mener qu'à l'erreur. L'ironie n'est pas un ornement, ou n'est pas qu'un ornement. De manière plus générale, Skinner remarque que dans le domaine de la biographie intellectuelle, par exemple la biographie de quelqu'un d'aussi complexe intellectuellement que Bell, qui se heurte à la fois à l'autorité royale et à Pierre Jurieux, La concentration sur les textes échoue complètement à traiter ce qu'il a nommé à plusieurs reprises les stratégies obliques. Selon Skinner, le nœud du problème est de considérer l'idée comme une unité, et alors de suivre un thème grandiose, mais insaisissable, à travers une période ou même plusieurs siècles. Le danger d'une telle approche, d'engendrer des affirmations empiriques erronées, a été appelé, par Peter Gray en 1964, persistance contrefaite, spurious persistence. L'exemple classique est de considérer, par exemple, le XIIIe siècle et les Lumières, tous les deux comme des âges de la foi. Si nous parlons d'un âge de la foi, pourquoi ne pas parler d'un âge de la soumission ou d'un âge de la confiance ? La notion de n'importe quelle idée qui a persisté semble artificielle. Skinner a une position conceptuelle, non une position empirique. Il n'accuse pas de telle méthode d'être susceptible de quelquefois nous égarer, mais d'être radicalement incapable de vérité. C'est la notion même d'idée qui se maintiendrait à travers le temps qui serait artificielle. La thèse de Skinner est absolument radicale, et c'est là son intérêt. Il y aurait une confusion conceptuelle sous-jacente dans toute tentative de se concentrer sur une idée elle-même comme une unité d'investigation historique. On ne peut reprendre ici l'exemple de Skinner, la nobilitas, pour montrer l'ambiguïté radicale des mots qui nous servent à identifier les idées, ambiguïté radicale qui renvoie peut-être à un vague des idées. Il est clair qu'écrire l'histoire de n'importe quelle idée, à n'importe quelle période, se heurte à la difficulté de la multiplicité de sens des mots qui désignent cette idée. Leo Spitzer, dans d'admirables études des historical semantics studies, a cherché à formaliser et à résoudre ces difficultés en passant des unités lexicales aux champs lexicaux. Mais dans l'optique de Skinner, il n'est pas sûr que cela résolve la difficulté. Donc le premier obstacle à lever est de se concentrer sur les formes des mots qui sont impliqués. Skinner pense que le sens même des énoncés n'est pas capable de lever cette difficulté. La pragmatique ne peut venir au secours de l'indétermination du lexique. Bien entendu, nous devons étudier non la signification des mots, mais leur usage. Mais nous ne devons pas croire que cela nous livre l'essence de la signification par le biais de l'usage. Appliqué à l'histoire des idées, c'est-à-dire à la philosophie des idées, la formule wittgensteinienne, pas la signification mais l'usage, voudrait dire que la signification d'une idée serait son usage dans différents contextes. Si la première raison de rejeter la méthode de Lovejoy, on vient de le voir, provient de l'idée de l'usage comme premier relativement à la signification, la seconde raison, elle, vient des jeux de langage. Si les idées ne peuvent être étudiées qu'en voyant leur nature dans toutes les occasions et dans toutes les activités, pensons à la nobilitas, alors il apparaît que le projet même d'étudier l'histoire des idées tout court, c'est-à-dire pas forcément l'histoire des idées unitées, repose sur une erreur fondamentale. La conception wittgensteinienne de la signification et de l'usage conduit donc Skinner, d'une part, à une position radicalement critique à l'égard de la théorie de Lovejoy, d'autre part, à douter sérieusement de la possibilité scientifique même d'une histoire des idées. La critique de Skinner est exactement la suivante. L'étude si minutieuse qu'elle puisse s'avérer des expressions à notre disposition dans l'histoire des idées ne peut nous livrer à quelle question, en fait, ces expressions étaient censées répondre et pour quelles raisons on était censé les employer. La critique de Skinner s'inspire de Collingwood et de son œuvre en archéologie sur l'activité de questionnement dans la connaissance, dans laquelle la question et la réponse sont strictement corrélatives. Et là, il faut lire le texte de Collingwood, la logique historique de la question et de la réponse. Pour Skinner, la méthodologie de Lovejoy est incapable de donner le statut d'une idée à un moment donné et donc d'expliquer finalement comment elle a gagné de l'importance et de la valeur, ce qui est un échec de la théorie. De plus, nous ne pouvons pas apprendre de telles histoires quel poids une expression donnée pourrait avoir eu pour les agents qui l'ont utilisée. Donc, il s'ensuivrait qu'en fait, nous ne saisirions jamais, à partir d'une telle histoire, quelles significations peuvent avoir eu telle expression. Donc, de telles études ne nous auraient rien fait gagner quant à la compréhension de l'occurrence même d'une idée. Donc, effectivement, avec le point de vue qui est le sien, la critique de Skinner est tout à fait radicale. Ma conclusion est que cependant, je pense que moi je serais beaucoup moins radical et je pense qu'il y a un certain nombre de points qui devraient être creusés et je les cite en conclusion. Je pense que le problème de l'émergence historique, le fait d'essayer de relier un petit peu ce que Lovejoy a dit sur l'émergence et le thème de l'émergence dans ses travaux d'histoire des idées, c'est quelque chose qui peut être approfondi. La question du présentisme, je crois, pourrait être éclaircie. La question de la synonymie des idées historiques, c'est quelque chose qui peut être aussi, je crois, discuté. Et la relation entre la méthodologie, disons, des sciences sociales, en l'occurrence ici, l'histoire, et la méthodologie dans les sciences exactes, la chimie, pourrait aussi être un point relativement intéressant. Et si on conjuguait ces différents points, je crois que ça permettrait de donner à Lovejoy une certaine actualité, une fois évidemment qu'on aurait un petit peu traduit ces textes et qu'on les aurait un peu rendus plus accessibles, disons, au public français, parce que c'est encore un peu sous le boisseau, si j'ose dire. Voilà. Thank you.